Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Parcours avec l'écrivain Walid Ajar. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Qui êtes-vous, Walid Ajar ?
Écoutez, donc je m'appelle Walid Ajar, donc je suis romancier, j'ai 38 ans. Que dire d'autre ? Je travaille également dans le domaine du digital et je pense qu'on peut dire que je suis également un globe-trotteur. Voilà. Je pense que ça commence à bien me définir.
Où êtes-vous né et où avez-vous grandi ?
Alors moi, je suis né à Créteil, donc dans le Val-de-Marne, et j'ai grandi au Perreux-sur-Marne, donc c'est à côté de Vincennes. Et ensuite, vers l'âge de 10 ans, j'ai déménagé en Essonne, à Courcouronnes, à côté d'Évry.
Quel souvenir, je dirais, gardez-vous de la maison ou l'appartement où vous avez grandi, celui où vous êtes resté le plus longtemps ?
Alors, quand j'étais vraiment enfant, le souvenir que j'en garde, c'est que c'était un lieu assez sombre. Je pense pour plusieurs raisons, parce que je pense que déjà parce que il y a pas forcément énormément de fenêtres, et puis que c'était un peu le style de l'appartement, parce qu'on habitait au rez-de-chaussée, et que c'était un peu ces vieux immeubles qui n'étaient pas encore gentrifiés, donc du Perreux-sur-Marne, donc c'est un côté presque provincial en fait dans ces villes de la petite couronne de Paris. Et en plus, ça j'y ai pensé très récemment, c'est je pense que si, comme je passais de très longs étés en Algérie avec mes parents, je pense qu'il y avait aussi ce contraste-là, donc passer d'une ville très lumineuse comme Alger, ou de paysages orientaux de la Kabylie, à, on va dire, l'automne francilien, je pense que ça a dû rajouter à cette impression de teinte sombre. Voilà, c'est un peu ce souvenir que je garde.
Et l'appartement d'Évry ?
L'appartement d'Évry, effectivement, je garde ce souvenir, effectivement, c'était là, pour le coup, c'était une cité HLM, donc je garde le souvenir de quelque chose de très vivant, de très foisonnant, de toujours une forme de mouvement dehors. En fait, j'ai plus des souvenirs de ce que je voyais par la fenêtre que de l'appartement en lui-même. Cette idée du mouvement. Puis quelque chose de chaleureux, oui.
Comment s'appelait ce quartier d'Évry ?
Le canal, en fait, c'est à Courcouronnes. Parce que moi, je dis toujours Évry parce qu'en fait, c'est l'agglomération d'Évry-Courcouronnes.
Mais du coup, les deux villes, d'ailleurs, sont maintenant réunies.
Oui, effectivement, c'est maintenant réuni. Et puis, en fait, comme moi, j'habitais vraiment à la limite avec Évry. Donc. En fait, bon, comme dans toutes les villes de banlieue, il y a un peu de ville dans la ville. Donc c'est vrai qu'à Courcouronnes, il y a la ville Courcouronnes Centre, qui est plutôt une ville qui ressemble à une petite ville de province avec ses petites maisons, etc. Et puis le canal, qui est plutôt le quartier HLM. Et d'ailleurs, pour rire, avec un de mes amis quand on était ado, on disait que le maire de Courcouronnes, c'était le maire de Courcouronnes Centre. Parce qu'on ne le voyait pas très souvent. Même si, bon, avec le recul, je pense qu'il a essayé aussi de faire des choses et il a participé au renouveau de la ville. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait toujours cette double ville dans la ville.
Vous nous avez dit il y a quelques instants que vous passiez tous vos étés en Algérie, Alger et la Kabylie. Vos parents sont d'origine algérienne ?
Oui, alors c'est vrai que j'y passais surtout quand j'étais enfant, quand mes parents étaient ensemble avant qu'ils se séparent. Mais c'est vrai que oui, j'ai même passé une année entre l'âge de 3 et 4 ans, j'ai raté ma première maternelle. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'entrée en maternelle, je ne parlais plus français. Et c'est drôle parce que maintenant je parle 5 langues et la langue que j'ai plus de mal à parler, c'est l'arabe. Donc voilà, c'est un peu l'ironie du sort. Mais oui, effectivement, j'ai passé beaucoup d'étés en Algérie et très beaux étés parce que je me fais une très grande famille là-bas. Puis aussi un peu l'insouciance des années 80 jusqu'au début de la guerre civile en 92. C'est vrai que c'était un. Après voilà, évidemment, toujours l'enfance qui est un peu trompeur. Mais en tout cas, moi j'en garde un souvenir, un très beau souvenir.
Votre famille est originaire de quelle région d'Algérie précisément ?
En fait, moi du côté de ma mère, ils habitent à Bir Khadem, donc c'est vraiment dans la banlieue d'Alger. Enfin maintenant, on dit que c'est Alger maintenant. Et du côté de mon père, ils sont aussi à Alger, mais ils étaient un peu plus ancrés en Kabylie, en Grande Kabylie, donc du côté de Tizi Ouzou. Mais en gros, on va dire que du côté de ma mère, ils étaient plus arabophones. Et du côté de mon père, c'est plus berbérophone. On va dire des choses comme ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de vos parents ? Comment et quand sont-ils arrivés en France ?
En fait, c'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai appris très récemment. Déjà, en fait, je me suis rendu compte d'un truc assez simple, c'est que en fait, on parle très peu de ces histoires-là dans les familles de culture maghrébine et surtout pour le cas de l'Algérie parce que voilà, c'est une histoire qui est compliquée. Mais en fait, bon. Je vais sûrement dire des approximations, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, quand a débuté la guerre d'Algérie, donc mon grand-père, qui était qui était une sorte d'imam un peu itinérant, en fait, qui conseillait les gens en Kabylie et qui avait un peu un rôle de... un peu l'équivalent d'un brahman chez les Indiens, finalement. C'est quelqu'un qui était une sorte d'autorité spirituelle. Donc son travail, c'était d'aller en village et de conseiller les gens. Et en fait, au moment où il a débuté la guerre d'Algérie, le village où ils habitaient, il y a un camp de soldats français qui s'est mis là-bas. Et je pense que ça devenait dangereux, en fait, pour les adolescents, parce qu'en fait, en gros, dès que vous étiez en âge d'être identifié comme un homme, vous aviez le risque d'être pris par l'armée française, en fait, parce que vous étiez éventuellement suspecté d'être un félaga. Et du coup, mes oncles, donc les grands frères de mon père, les uns après les autres, sont partis en France, parce qu'en fait, simplement, comme ils ont dû émigrer de Kabylie vers Alger, vers la capitale, je pense qu'ils crevaient de faim, finalement, simplement, et que du coup, ils sont partis à la métropole pour travailler, et du coup, il y avait un roulement les uns après les autres. Et mon père, c'était le plus jeune, donc il est parti en dernier, mais il est resté parce qu'il a rencontré sa femme, qui n'est pas ma mère, qui était sa première femme, une Française, avec qui, voilà, il a une première vie, etc. Et puis, ensuite, quasiment 20 ans plus tard, mon père, pendant un été en Algérie, en fait, a rencontré ma mère, en fait, via son père, parce qu'en fait, mon grand-père maternel travaillait avec le frère de mon père dans la même usine. Et comme mon grand-père maternel en fait, avait travaillé en France pendant la Seconde Guerre mondiale, puis c'est quelqu'un d'assez francophile, etc. Donc je pense qu'il idéalisait un peu cette idée que mon père était en France depuis 20 ans. Et donc il a un peu forcé à la main ma mère pour se marier. Donc je pense que ça a posé les bases d'un mariage pas très heureux.
Et vous êtes né, vous, en France?
En France, voilà. Moi, je suis né en France en 81. Voilà, 81, la meilleure année, comme tout le monde le sait.
L'année de l'élection de François Mitterrand.
Oui, et puis la première année de la génération Y, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est l'année qui a connu l'âge d'or du rap. Donc on est la meilleure génération.
Walid Ajar, que faisaient vos parents? Je ne sais pas s'ils sont à la retraite aujourd'hui.
Alors, mon père, en fait, il était chef cuisinier au Crous de Paris. Donc il a un peu... lui, il a commencé à travailler à 16 ans, donc il a vraiment franchi tous les échelons. De plongeur jusqu'à être chef de cuisine, chef cuisinier donc dans un restaurant universitaire. Je crois quand même une année, il a eu le prix du meilleur chef cuisinier du Crous, donc il a sa photo dans le guide. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un guide des restos universitaires de Paris. J'avais appris à ce moment-là. Et ma mère, en fait, de son côté, elle a retraite cette année également, récemment la retraite. Elle travaillait dans une usine de blanchisserie industrielle. Très, très physique, donc en fait, quand vous allez dans les grands hôtels et que vous voyez du linge tout frais à atterrir sur votre lit, il faut savoir qu'il y a des petites mains derrière. Donc souvent, c'est des gens qui se lèvent à 3h30 du matin et qui sont payés le SMIC et qui travaillent en périphérie de Paris. Voilà. Et donc, c'est ce que faisait ma mère.
Votre mère se réveillait à 3h du matin quand vous étiez enfant? Vous avez
quand j'étais adolescent, parce qu'en fait, quand j'avais 12-13 ans, oui, donc 4 ans moins le quart, ouais, ma mère serait à 4 ans moins le quart, ouais, tous les matins.
Et comment on s'occupe de sa scolarité quand on a une maman qui n'est pas là pour vous accompagner à l'école?
Moi, j'étais de toute façon déjà très tôt un adulte, donc moi j'ai très tôt été un peu le parent de mes parents, donc ça c'était pas trop un problème. Puis ma mère, elle était là dans ma prime enfance, ça c'est plus quand j'étais adolescent. Ça c'était le cas pour mon frère qui était effectivement avec une grosse différence d'âge et dont je me suis pas mal occupé parce qu'effectivement ma mère n'était pas forcément très présente le matin à un moment donné, mais bon, de manière assez classique. Je pense que voilà, on apprend très tôt à se débrouiller, à être autonome, indépendant, et ça forge le caractère.
Walid Ajar, vous nous avez dit que vous avez été très tôt le parent de vos parents. Qu'est-ce que ça signifie?
Je pense que comme dans toutes les familles de personnes issues d'immigration, on est la personne souvent à la maison qui a une meilleure compréhension des codes, de l'administration. Donc c'est vrai qu'on se retrouve assez tôt à remplir les feuilles d'impôt, à aider les parents dans un certain nombre de tâches administratives. Bon, moi, j'ai eu la chance que ma mère parle très bien français, écrive très bien français. D'ailleurs, celle qui m'a transmis son goût pour la lecture. Mais c'est vrai que voilà, on se fait très tôt l'intermédiaire avec la société française.
Ça vous a permis de grandir plus vite? C'est une chance ou c'est plutôt une malchance?
Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est que je pense que tout le monde dans la vie, en fait, arrive avec des cartes différentes. Et puis, en fait, on peut se dire que, par exemple, quelqu'un qui a une vie beaucoup plus simple et facile tout le long, le jour où il arrive un gros pépin, quelque chose d'assez dur, il y est moins préparé. Dans mon cas, je pense que voilà, le fait d'avoir été très tôt responsabilisé, en fait, ça m'a donné aussi l'esprit d'initiative. Enfin, moi, j'ai jamais eu peur de... entamer un nouveau projet. J'ai jamais, je sais pas, j'ai connu voilà des amis lors de mes études qui étaient pétrifiés parce qu'ils avaient des parents qui avaient fait des très grandes études, des très grandes carrières. Du coup, ils avaient constamment cette peur d'échouer. Bon, évidemment, moi aussi, j'ai mes échecs, moi aussi, j'ai mes angoisses, mais quelque part, je me disais, quoi que je réussisse, je serais le premier dans la famille à le faire.
Quel souvenir gardez-vous de votre scolarité au Perreux-sur-Marne, puis à Évry, Wadi Dajar?
Ah, c'est très contrasté. En fait, bon, l'école, ça a toujours été un lieu quand même qui m'a permis de m'émanciper parce que j'étais bon élève. Après, c'est vrai que, bon, moi, comme je dis souvent un peu sur le ton de la blague, dans les années 80, les Arabes de l'époque au Perreux-sur-Marne, c'était les Portugais. Donc ça voulait dire simplement qu'on était dans une époque où voilà, il n'y a pas beaucoup de gens issus de l'immigration. Et c'est vrai que si vous ne faites pas bonne impression dès le début, ben, vous êtes un peu mis de côté. Et c'est vrai qu'il y avait un petit côté marche ou crève, quoi. Mais de l'autre côté, j'en garde aussi un bon souvenir parce que j'étais bon élève et parce que ma mère m'a beaucoup accompagné là-dessus. Mais j'ai plus l'impression que j'ai réussi malgré l'école que plus que grâce à l'école, en tout cas.
Pourtant, j'imagine qu'il y a des enseignants qui vous ont tendu la main.
Bien sûr, il y en a. Mais pour moi, c'est plus une exception qu'une règle. Et je pense que très souvent, les enseignants, en fait, ils sont partis parfois avec des idées un peu préconçues et se sont un peu protégés de certaines situations. Et puis, en fait, c'est qu'après coup qu'ils ont découvert, qu'ils découvrent en fait finalement un élève. Et je trouve que ça, c'est un peu préjudiciable d'ailleurs, puisque moi, j'ai eu voilà, la chance d'avoir un environnement familial qui fait que j'ai toujours été plutôt à me dire, voilà, le prof, la maîtresse a raison. Mais voilà, on n'a pas toujours forcément, surtout quand on est dans l'adolescence, cette chance-là. Et enfin voilà, donc ça c'était plutôt côté Perreux-sur-Marne. Après Évry, je pense que c'était une ambiance un peu différente parce que c'était y a plus de mixité et c'était encore autre chose. Mais c'est vrai que dans l'enfance, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Ouais.
Ce qui a été important pour vous, Wadi Dajar, ça a été le soutien de vos parents, en particulier celui de votre mère, dans votre scolarité. Ça a été déterminant.
Ah ouais, je pense que de toute façon, je lui dois tout. Hein. Enfin, en tout cas, sur ce point de vue-là, parce que très globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a en fait l'été avant d'entrer au CP, mon père est tombé malade en Algérie, donc on arrivait en fait à la rentrée scolaire avec 3 mois de retard. Donc la maîtresse a dit très clairement qu'elle estimait que c'était trop tard, elle voulait m'envoyer à l'école maternelle, et du coup voilà, elle m'a mis au fond de la classe, elle m'a pas adressé la parole pendant plusieurs mois, et c'est ma mère qui m'a appris à l'école, enfin qui m'a appris à lire en fait tous les jours, et qui en fait je me rappelle très bien d'une scène en fait, je devais faire des devoirs et je ramène mon cahier à l'école, mais écrit au crayon de papier. Et en fait, la maîtresse ne voulait pas croire que c'était moi qui avais écrit. Elle disait oui, mais non, ce crayon de papier, c'est ta mère qui l'a fait, etc. Donc, c'était bon, pour un enfant de 6 ans, c'est évidemment très, très, très déstabilisant. Et puis voilà, jusqu'à un jour comme ça, bon, c'est très romanesque, mais c'est vrai, c'est que. Un jour comme ça, je ne sais pas pourquoi, elle me demande de lire et il se trouve que je lis couramment, je lis mieux que tout le monde et je finis premier de la classe à la fin de l'année. Donc, je pense que ça a été effectivement un élément assez déterminant parce qu'après, quels que soient les échecs ou des coups durs que j'ai pu connaître, bah, en fait, ça a toujours été cette expérience fondatrice. Et je pense que si j'avais pas eu cette expérience fondatrice, je pense que tout le reste aurait été différent.
Vous avez été mu par la détermination très tôt. Vous êtes quelqu'un de volontaire?
Oui, bah, de toute façon, je pense que quand on est mis face à des épreuves, il y a un moment où, enfin, il y a deux manières de fonctionner. C'est soit on essaie de trouver les ressources pour les surmonter, soit on se laisse happer dedans. Et je pense que, oui, j'ai toujours fait preuve de volontarisme, mais je ne suis pas le seul. Enfin, je pense que la majeure partie des gens qui sont face à ce genre de situation ont le même état d'esprit.
Alors, Wadi Dajar, vous nous avez dit que votre goût de la lecture vous vient en particulier de votre mère. Vous avez des souvenirs de lecture qui datent de votre enfance, de votre adolescence?
Oui, bien sûr. En fait, quand on était au Perreux-sur-Marne, en fait, j'avais très peu de loisirs parce que c'était cher et parce que je pense qu'on n'était pas très connectés, en fait, à la ville, parce que je pense qu'on était un peu décalés. Je pense qu'on habitait dans un bâtiment qui était vraiment pas terrible et dans une commune plutôt bourgeoise. Donc, je pense qu'il y avait ce décalage-là. Et du coup, je passais beaucoup de temps, en fait, le week-end à la bibliothèque parce que c'était un lieu gratuit. Et puis que ma mère était grande lectrice, alors elle lisait pas des trucs. Elle lisait pas Proust à la maison, mais en tout cas, pour elle, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que du coup, je garde le souvenir, par exemple, d'avoir lu La petite maison dans la prairie. d'avoir lu les 3 ou 4 volumes, moi, quand j'avais 8 ou 9 ans.
J'imagine, après avoir vu le feuilleton à la télévision.
En fait, justement, j'étais en train, l'autre fois, de me poser la question de savoir si c'était lié ou pas. Sûrement, mais en fait, je me souviens aussi que quand j'ai lu le livre, ça m'a paru vraiment très différent. Parce qu'en fait, la série, c'est quand même quelque chose d'un peu niant, quoi. Puis bon, on a l'impression qu'ils ont une vie hyper simple, ils sont là. En fait, on se souvient même pas que le père de famille travaille. Enfin, on se souvient plus des choses mélodramatiques. À un moment donné, je crois qu'il y a une des sœurs qui devient aveugle, mais on voit pas du tout, en fait, le côté conquête de l'Ouest américain et tout ce truc qui est incroyable, en fait, ces paysages immenses, cette lutte pour la survie, qui, moi, m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, donc quand j'avais lu ces livres-là. Après, oui, je me souviens évidemment de Joseph Joffé, Le sac de billes. Je pensais que ça m'avait beaucoup marqué sur ces deux frères qui fuyaient à travers la France occupée. Il y a quelque chose que je trouvais assez fou, parce que je pense que les héros du roman devaient avoir le même âge que moi quand je les ai lus, donc 9 ou 10 ans. Donc je trouvais ça dingue. En plus, moi, à l'époque, j'avais pas de frère, donc je trouvais ça assez cool de parcourir la France avec son frère. En plus d'être poursuivi par des méchants, parce que les nazis, c'est toujours un peu les méchants ultimes, tels qu'on les imagine. Donc il y avait un petit côté presque, je pense... héros de manga, parce que j'étais effectivement très fan de dessins animés, hein, Génération Club Dorothée, évidemment.
Vous nous avez dit que vous alliez très régulièrement en Algérie. Mm-hmm. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments? Vous avez parlé de la lumière, déjà.
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, quand on habite en région parisienne et qu'on passe l'été en Algérie, évidemment, il y a cette lumière qui est assez incroyable. Il y a aussi le fait qu'en fait, il y a beaucoup d'activités qui se passent dehors. Du coup, il y a cette ville en fait qui vous accueille. À l'époque, en fait, la périphérie d'Alger, enfin la petite banlieue d'Alger, ça restait quand même très vert. Donc, je me souviens de grands jardins, d'orangers. Puis surtout, le souvenir, c'est d'être très entouré, parce que moi, comme j'étais de mes deux parents, j'étais fils unique. Donc, c'est vrai que vous arrivez tout d'un coup quelque part où vous avez beaucoup de cousins, de cousines, de tantes. Puis les gens, voilà, il y a vraiment cette logique de tribu. Et ouais, c'est quelque chose d'incroyable.
Vous n'avez pas véritablement gardé en vous la langue arabe que vous parliez en Algérie?
En fait, je comprends très bien. Mais c'est vrai que pour parler, ouais, c'est quelque chose de compliqué. En fait, si je passe 2-3 semaines là-bas, ça revient. Moi, là, je vais y aller justement. Ça fait 7 ans que je n'y suis pas allé. Je vais y aller là. Mais oui, globalement, ouais, je ne sais pas ça. Il faudrait peut-être lui demander un psy, j'en sais rien.
L'Algérie est associée pour vous à des bons souvenirs. Vous n'avez pas connu l'Algérie de la tragédie, la tragédie de la fin des années 80.
En fait, je l'ai connue tout début. En fait, j'étais en vacances avec mon père. Je suis arrivé en Algérie avec mon père pour les vacances. C'est la semaine où Mohamed Boudiaf, donc le président, a été assassiné. Donc ça, je me souviens très bien de ça. Puis je me souviens effectivement qu'on avait passé pas mal de temps chez une tante qui habitait en périphérie d'Alger, qui avait souvent des gens qui étaient associés au fils, au GIA. Enfin, je me souviens pas si on parlait de GIA à l'époque, mais qui arrivaient avec des fusils, qui semaient un peu la terreur. Enfin, il y avait déjà ces prémices un peu de cette guerre civile. Mais en même temps, je me souviens que c'était cet été-là où il y avait eu succès phénoménal de Cheb Khaled avec Didi. Donc c'était aussi une atmosphère très très contrastée, c'est assez étrange. Et je me souviens que je suis revenu l'année d'après, en 93, cette fois avec ma mère. Puis après, effectivement, on n'y est pas allé pendant un moment. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai plus vécu de loin. Et notamment, je pense que je me suis vraiment rendu compte de la tragédie, finalement, à travers ce qui se disait dans les médias français. Je me souviens que Carl Zéro, à l'époque, là, c'est vraiment le journal de Zéro, je crois que ça s'appelait, sur Canal+. Il y avait pas mal de reportages qui parlaient, effectivement, des massacres de villages entiers. Et puis après, c'est plus tard, quand je suis retourné en 2004, et puis qu'en fait, j'ai longuement discuté avec des cousins qui, pour le coup, avaient vécu l'adolescence pendant ce moment-là et qui avaient dû choisir entre, en gros, faire le service militaire ou être menacés par les maquisards. Là où je me suis rendu compte, en fait, de ce que ça voulait dire pour toute une génération. Et c'est pour ça que, bon, évidemment, je suis d'origine algérienne et j'en suis très fier, mais j'estime que, voilà, j'ai évidemment pas du tout la même expérience que mes cousins ou cousines, ou en tout cas les gens de cette génération, ont pu avoir. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui font de l'identité, c'est l'expérience.
L'invité de Parcours est l'écrivain Walid Hajjar. On se retrouve dans quelques instants.
Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Parcours. Nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Walid Hajjar. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous ne vivez pas en France. Vous vivez au Brésil. On en parlera peut-être tout à l'heure. On va remonter encore votre enfance. Après le bac, vous avez fait des études supérieures. Et ce sont ces études qui vous ont amené à partir à l'étranger?
Oui, ça s'est fait en plusieurs temps, mais c'est vrai que... effectivement, lors de mes études, j'ai été amené à partir en échange universitaire au Mexique. Ça, c'était en 2006. Et oui, c'était un peu le début de tous les voyages. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence à y goûter, bah, déjà, on y prend goût. Et puis en plus, par rapport en fait, au réseau qu'on se fait, aux connexions qu'on se fait, bah, en fait, les choses s'enchaînent un peu naturellement. Mais oui, effectivement, ça se fait dans ce cadre-là. Et j'étais aussi à ce moment-là en alternance à Paris dans une entreprise. Et j'ai réussi en fait à faire ma dernière période d'alternance donc au Mexique, où je suis resté presque un an à Mexico.
Dans quel domaine êtes-vous devenu professionnel?
Alors moi, j'ai fait des études donc dans l'informatique. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc moi, mon domaine sur le plan professionnel, c'était effectivement lié à tout ce qui était au digital, donc la transformation digitale, Internet, ce genre de choses. Mais effectivement, j'ai commencé au départ à travailler dans un grand groupe informatique, puis ensuite en banque dans des projets digitaux, donc ça c'était aux États-Unis. Et puis après un premier passage au Brésil, je suis revenu en France où j'ai travaillé dans le conseil pour différents groupes avant d'être à mon compte. Et j'avais beaucoup de clients qui étaient liés à la banque, puis ensuite à l'industrie. Puis j'ai fait un passage à un moment donné dans un grand groupe industriel au sein de la direction de la transformation digitale, avant de reprendre, on va dire, mes libertés, d'être à mon compte de nouveau.
Votre vie a été profondément changée une fois que vous vous êtes engagé dans ces études, entre la ville d'Évry de votre enfance et, je dirais, ce citoyen mondialisé que vous êtes devenu aujourd'hui.
En fait, je pense que c'est très lié. Je pense que si j'avais justement pas eu... cette adolescence à Évry avec ce contact avec des gens venant un peu des quatre coins du monde. Comme on le dit souvent, Évry, c'est un peu la ville des 80 nationalités. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment donné envie de voyager. Je pense que c'est aussi parce que générationnellement, on était un peu la culture hip-hop, enfin la génération hip-hop, donc qui venait des États-Unis. De par mes lectures, moi, j'ai toujours adoré les écrivains afro-américains. J'ai voyé un peu de miroir aussi nos expériences en France. J'étais aussi très intéressé par le Brésil parce que voilà, j'idéalisais un peu, c'est un pays métissé, peut-être loin des turpitudes identitaires qu'on a en France, même si au final on y reviendra plus tard, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Mais en tout cas, oui, je pense que le voyage a toujours fait partie de quelque chose qui m'intéressait. Et puis au final, même pendant mes études, quand j'habitais en France, moi je faisais des allers-retours entre des mondes concomitants hyper différents, c'est-à-dire effectivement j'habitais dans une cité HLM et puis je pouvais me rendre à Paris dans les beaux quartiers, avoir des gens dont les préoccupations étaient diamétralement opposées aux miennes. Donc c'est, pour moi, le premier voyage, il était vraiment là. De toute façon, en vérité, on peut voyager bien plus loin en prenant la ligne 4 d'un bout à l'autre qu'en prenant un avion pour aller à l'autre bout du monde.
Vous êtes à l'aise dans tous les mondes que vous côtoyez, Walid Hajjar?
Je pense que c'est comme qu'on pratique les langues, en fait. Ça se travaille. Au début, c'est pas quelque chose d'évident. Et je pense surtout qu'il faut être très modeste. C'est-à-dire... je me dis toujours que j'ai jamais rien compris.
C'est-à-dire?
Bah, ça veut dire qu'il faut pas penser que parce qu'on a à un moment donné, on arrive à avoir des facilités dans un environnement donné, qu'en fait, on le maîtrise. Et par exemple, pour le cas du Brésil, moi, il y a une phrase d'un poète brésilien que j'aime beaucoup qui dit que le Brésil n'est pas un pays pour les débutants. Et je pense que c'est tout à fait vrai parce que, en fait, quand vous arrivez au Brésil, voilà, les gens sont sympathiques, il fait beau, il y a une certaine douceur de vivre et du coup, on peut avoir l'impression que c'est simple. Mais en fait, une fois qu'on est vraiment plus dans le quotidien, on se rend compte que c'est un pays qui peut être très compliqué. Mais pour revenir sur votre question sur le fait d'être un citoyen mondialisé, alors je ne sais pas si je suis un citoyen mondialisé, mais je pense que voilà, je suis d'une génération de personnes qui ont eu la chance d'avoir accès à des études à l'étranger. On était aussi la génération qui a eu l'accès à EasyJet, au vol low cost, passer des week-ends d'ici et là, alors qu'avant, moi je me rappelle quand j'étais enfant ou adolescent, ne serait-ce que prendre un billet d'avion pour l'Espagne, ça paraissait quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, on reçoit tous les jours des alertes pour aller à l'autre bout du monde pour 300 euros. Et bon, c'est assez bon et c'est mauvais côté, parce que je pense que s'il y a un côté uniformisation, et puis parfois les gens, en fait, ils prennent l'avion, mais ils ne voyagent pas. Il y a quelque chose d'assez étrange, d'ailleurs, parfois, observer certaines personnes et les comportements que les gens ont. Mais oui, c'est sûr que cet enchaînement et le fait d'avoir fait des études supérieures a permis ces voyages et ces séjours à l'étranger.
Vous avez visité, je crois, plus d'une cinquantaine de pays. Ça fait rêver. Actuellement, je l'ai dit, vous vivez au Brésil et vous êtes de passage en France. Est-ce qu'on change de regard sur son pays d'origine, la France, quand on vit à l'étranger?
Bien sûr, je pense que celui qui ne change pas de regard, en tout cas celui qui n'adopte pas une perspective différente sur son pays, c'est qu'il a vraiment, vraiment tout perdu dans l'histoire. En fait, je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à habiter à l'étranger, mes premiers séjours à l'étranger, notamment au Mexique, que j'ai commencé à vraiment me sentir français. Pour une raison très simple, c'est que la première chose qu'on voit en vous quand on est à l'étranger, c'est le fait d'être français. En France, évidemment, la première chose, en tout cas quand on parle de ces questions identitaires, c'est plutôt de vous interroger sur les origines. Et du coup, c'est vrai que l'identification se fait par ce biais-là. Et puis deuxièmement, en fait, je pense que quand on habite à l'étranger, on se rend compte aussi de ce qu'il y a de très français en soi, dans sa manière de voir la société, de voir par exemple les questions sociales, la politique, le rapport au monde. Ouais, je pense que je suis très français de ce côté-là.
C'est quoi être français quand vous êtes au Mexique, au Brésil?
Déjà, je pense que c'est une conscience du monde. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, mais en France, on a quand même une curiosité vers ce qui se passe ailleurs qui est assez incroyable. Quand on regarde, par exemple, les journaux télévisés au Brésil, ça parle à 70% de faits divers, un peu de foot, un peu d'actu politique nationale, mais très peu de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vrai qu'en France, on est très tôt exposé à ça. Alors, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Alors, pour les bonnes raisons, c'est la curiosité française, on va dire. Et puis, les mauvaises raisons, c'est qu'aussi, on a un peu le lait colonial, et puis, qui fait que, quelque part, ça vient un peu à... C'est un peu un effet de ça.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Walid Ajar, que la question de l'identité était plus complexe qu'on ne l'imaginait dans un pays comme le Brésil.
Oui, parce qu'en fait, je pense que l'image d'Épinal que nous, on a du Brésil, c'est un peuple métissé, souriant, heureux, fier de cette identité-là. D'ailleurs, quand on pense à un Brésilien, généralement, c'est un peu cet archétype-là qu'on pense. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que, comme moi, en 2009, donc lors de mon premier séjour au Brésil, j'arrive là-bas, un des trucs qui me frappe vraiment dans le kiosque des journaux, c'est qu'on voit que des visages, on va dire, blancs, européens, dans un pays où vous avez 50% de la population qui est noire ou métisse. Ça a un peu changé en 10 ans. Je pense que ça s'est un peu métissé dans les représentations médiatiques, mais ça reste majoritairement le modèle, on va dire. Le modèle de beauté, ou en tout cas ce qu'on a envie de montrer dans la pub, parce que finalement la pub, c'est pas une représentation. La réalité, c'est une représentation de ce qui est enviable. Donc ce qui est enviable, ça reste l'archétype de la personne plutôt d'ascendance européenne. Et c'est vrai que quand au Brésil et en France, alors quand on pense à un Brésilien ou des Brésiliens, bon, on pense à l'équipe du Brésil, quoi, avec les visages qui vont avec. Et je pense que Brésil, oui, il y a eu cette envie de se raconter, de croire à cette idée de la démocratie raciale, comme ils l'appellent là-bas, c'est-à-dire un pays qui serait le pays de tous. Et je pense que les Brésiliens ont vraiment envie d'y croire, mais après, et surtout dans ces dernières années, bon, la réalité, c'est que c'est un pays qui est très ségrégué dans ses classes sociales. Il n'y a pas de classe moyenne noire au Brésil, par exemple. Enfin, vous ne voyez pas beaucoup de médecins ou d'avocats noirs ou métissés au Brésil. Après, les catégories, on va dire, ethniques, c'est aussi quelque chose de compliqué. On n'est pas aux États-Unis, c'est encore quelque chose d'un peu plus complexe. Mais globalement, oui, je pense que sur ces questions-là, on va dire que les gens, on va dire, de descendance amérindienne ou africaine au Brésil continuent d'occuper les bastions de la société.
Si je vous ai bien compris, Walid Ajar, quand vous êtes à l'étranger, on ne vous renvoie pas à votre origine algérienne, l'origine algérienne de vos parents. Alors qu'en France, la première question qu'on vous pose, c'est tes parents, ils sont d'où?
En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Je pense que, bien sûr, les gens, quand je suis à l'étranger, je n'ai pas forcément la tête stéréotype du français. Mais pour eux, c'est plus un élément exotique qui fait partie d'un tout. Et je pense que dans ma manière d'être, dans ce que je renvoie, ils voient d'abord le fait que je sois français. Et ça, ça vient un truc en plus. D'ailleurs, en 2006, c'était la Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde où Zidane a mis son coup de tête. Et c'est vrai que la manière la plus simple que j'avais d'expliquer que j'étais français, c'était de dire que que voilà, j'étais d'origine algérienne comme Zidane. Bon, même si pour eux, Zidane, en fait, ils ne l'identifient pas spécialement d'origine algérienne. Pour eux, Zidane était, entre guillemets, un Français, était blanc, ils ne le voyaient pas spécialement comme ça.
Alors, on a parlé un peu de littérature, notamment les livres de votre enfance. Vous avez évoqué brièvement la littérature afro-américaine. Quels sont les écrivains qui vous ont accompagné une fois devenu adulte?
Moi, j'aime beaucoup un écrivain qui s'appelle Richard Wright et qui parle donc un Black Boy. Je pense que c'est vraiment été un bon un des livres qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Parce que ça raconte, voilà, ça raconte un peu cette traversée des mondes pour ce héros. C'est une famille issue d'une famille qui est très religieuse. Il essaye d'échapper un peu au carcan de cette famille-là. Et dans un pays finalement qui est tiraillé par plein de fractures. Et je pense que quelque part, toutes ces questions-là, c'était des questions qui me parlaient. Je pense que ça me parlait d'autant plus que ça se passait dans un autre cadre. Que du coup, ça permet de prendre de la distance et de faire preuve d'empathie. Enfin, moi, je crois toujours que de toute façon, que lire un livre, lire un roman, surtout, c'est une école de l'empathie.
Vous avez publié un premier livre et par la suite des nouvelles dans une très belle revue dirigée par Mark Shepson, d'ailleurs et d'ici. Vous avez par la suite écrit un roman qui, je l'espère, sera bientôt publié. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire?
Bon, déjà, j'ai toujours aimé les histoires. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours été lecteur, donc je pense que pour écrire, il faut lire. Après, ce qui a été vraiment, je pense, le déclencheur dans l'adolescence, je pense que c'était le moment effectivement où il y avait... C'était un peu, comme je disais, un peu l'âge d'or du rap français. Il y avait toute cette génération issue des banlieues qui avaient envie de s'exprimer et tout ça. Et c'est vrai que ça me donnait envie, en fait. J'avais aussi envie de participer de ce moment-là, mais moi, je n'étais pas dans la musique. Et en même temps, je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'un peu enfermant et qui était un peu limitant. Et du coup, c'est vrai que naturellement, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien écrire un roman. À l'époque, il y avait Rachid Jaidani qui avait sorti son premier roman, Boomker. Et en même temps, ça me faisait un peu peur parce que je voyais bien que le traitement médiatique qui était réservé à ce genre d'auteur était... Enfin, c'était un peu le zoo, quoi. Je me rappelle de Jaidani qui était reçu chez Pivot. Bah, c'était très caricatural. Et en fait, moi, j'avais pas envie d'être ce genre d'écrivain. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps, en fait, à... Enfin, longtemps, pas si longtemps que ça, mais en tout cas, entre l'envie, peut-être 16-17 ans d'écrire, puis au moment où je me suis mis vers 22-23 ans, bah, il y a eu un petit sas qui s'est fait. Au début, j'ai commencé du coup à écrire avec des personnages qui n'avaient rien à voir avec cet environnement-là, en me disant que j'avais envie de me prouver que je pouvais écrire des histoires avec des personnages qui s'appelaient Mathieu, Maxime, Céline, et parler d'histoires qui se passaient ailleurs, parce que voilà, je suis un auteur comme un autre. Et puis finalement, je crois que c'était au cours de l'année 2004, j'étais ramené vers ces thèmes-là, et vers l'envie aussi de dépeindre des personnages qui vivaient un peu comme moi des voyages entre différents mondes.
Il faut écrire finalement sur ce que l'on connaît ou sur ce que l'on a envie de connaître.
Je pense qu'il faut écrire sur ce qu'on est capable de sentir. Par exemple, dans le roman là, que j'espère voir publier l'année prochaine, qui s'appelle « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?», il y a un très long passage qui se passe en Afghanistan, à l'époque, pendant la guerre civile, puis à l'époque des talibans. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un défi. C'est-à-dire que déjà, je ne voulais pas encore raconter la même histoire sur ces horribles talibans et ces femmes en burqa, même si ça fait partie du décor. Je vais raconter une histoire un peu plus originale. En même temps, qu'est-ce que j'y connaissais à cette époque-là? Donc, comment est-ce qu'on fait pour se documenter? Comment est-ce qu'on trouve la voix des personnages qui se passent à ce moment-là? Comment est-ce qu'on entre en empathie? Donc, pour moi, il y a un vrai travail documentaire, quasi journalistique, d'investigation, interroger des gens là-dessus. Mais par contre, voilà, je comprenais très bien, enfin, j'avais beaucoup d'empathie, je comprenais très bien, à un moment donné, je parle de départ de plusieurs des personnages. Je comprenais très bien cette situation dans laquelle voir des personnes qui sont contraintes à une forme d'exil de par une situation donnée. Et ça, c'était quelque chose pour moi qui faisait écho à des choses que j'avais vues, que j'avais ressenties, etc.
C'est particulier d'écrire sur la France, même si vous avez évoqué l'Afghanistan, quand on vit à l'étranger.
De toute façon, effectivement, en ce moment, je suis au Brésil, mais en fait, en vérité, je vis entre la France et le Brésil. Hein, et puis, mes références restent françaises, même si c'est matiné de plein d'autres choses. Non, au contraire, je pense que la distance, en fait, donne une saveur différente aux histoires et aussi permet de prendre un certain recul. Je pense qu'au contraire, je suis peut-être un meilleur écrivain en habitant à l'étranger, en parlant de la France, que je l'étais quand j'étais ici. J'ai peut-être plus la tête dans le guidon avec un rapport beaucoup plus à fleur de peau sur certaines questions. Aujourd'hui, évidemment, il y a un certain nombre de questions qui m'intéressent toujours, mais je les vois avec un peu plus de distance et aussi une forme de prise de recul quand on voit ce qui peut se passer ailleurs.
Le Brésil est une terre d'inspiration pour vous ?
Alors, bien sûr. Le Brésil est une terre d'inspiration, déjà parce que mon ex-compagne était brésilienne et que j'ai vécu beaucoup de choses là-bas et que j'ai aussi beaucoup d'amis et des gens que je considère comme des gens de ma deuxième famille. C'est un pays qui est très très riche avec des influences vraiment multiples. C'est une énergie, c'est une énergie incroyable et c'est pas le pays, on va dire, avec le patrimoine littéraire le plus riche, mais les textes qui sont produits sont aussi d'une qualité vraiment excellente et toujours empreint d'une très grande musicalité. Moi, comme en fait, je suis très attentif au rythme, j'aime le rythme. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. Et ce que j'aime bien au Brésil, par exemple, par rapport à d'autres pays d'Amérique latine, si par exemple, par rapport à l'Argentine dans lequel j'ai pu séjourner, c'est qu'il y a vraiment une culture à part et très authentique. Il n'y a pas forcément l'envie de singer ce qui se fait ailleurs.
J'aimerais qu'on parle à nouveau de vos parents. Quelles valeurs vous ont-ils transmis qui vous aident aussi à vivre ?
Je pense que des valeurs qui sont très universelles et assez simples. Je pense que c'est le fait d'être une bonne personne, c'est-à-dire se comporter avec les autres comme on aimerait qu'ils se comportent avec soi. Croire au travail, croire aux vertus du travail, que quand on travaille, en fait, on a un résultat. Ne pas juger les autres, ne pas juger les autres en fait de manière générale, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans la vie des gens et faire preuve d'ouverture d'esprit, se souvenir d'où on vient, mais en même temps ne pas en être prisonnier. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal.
À quoi, à qui êtes-vous resté fidèle ?
C'est une bonne question. Moi, je suis quelqu'un qui cultive des très longues amitiés. Donc, moi, j'ai des amis qui. Des amitiés de 20 ans. Donc, il y a des cercles d'amis dont je suis très proche, que je continue à cultiver, qui sont un peu aussi une forme de boussole dans ma vie. Évidemment, mes parents, mon frère. Ouais.
Lorsque vous retournez à Ivry, est-ce qu'il vous arrive de croiser des jeunes à qui vous parlez de votre parcours ? Vous arrive de donner des conseils ?
Alors, bon, déjà, je ne retourne plus à Ivry parce que ma mère a déménagé à Montreuil. Donc maintenant, je suis aussi un peu citoyen du 93 par procuration. En fait, quand j'étais en école de commerce, j'avais fondé une association qui s'appelait Capacité. On faisait en fait du coaching et du mentorat pour les jeunes. Du coup, c'est vrai que j'avais cette envie en fait, d'éviter notamment des écueils dans l'orientation scolaire, etc. Du coup, j'ai essayé de faire ce travail-là. Plus récemment, effectivement, dans le cadre de mes activités d'auteur, oui, j'ai pu rencontrer des étudiants, des jeunes professionnels, essayer un peu de leur donner des conseils, en tout cas, très modestement, de parler des choses que je connais. Après, je crois pas être plus un exemple qu'un autre, et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils ont aussi beaucoup d'armes en eux, en fait, pour se trouver. Ils n'ont pas forcément besoin de moi pour ça.
Mais vous avez le sentiment, tout de même, de pouvoir être un exemple. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Vous avez parlé des vertus du travail.
Il n'y a pas de fatalité. Si, il y a de la fatalité dans la vie. Dans la vie, bien sûr qu'il y a de la fatalité. Après, ce n'est pas parce qu'il y a de la fatalité qu'il faut s'y résoudre. Et j'ai envie de dire, même si la bataille est perdue d'avance, il faut quand même s'y lancer. Mais bon, je vais le redire parce que là, ça paraît très, très noir ce que je veux dire. Mais la manière dont je l'ai dit, ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'il y a des obstacles ou qu'il y a des choses qui peuvent paraître difficiles que ça doit empêcher d'essayer d'entreprendre.
Dernière question, Walid Ajar, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ?
Écoutez, de continuer à être heureux. Et puis, j'espère de partager de prochaines œuvres avec un public le plus large possible.
Merci Walid Ajar d'avoir été l'invité de Parcours.
Merci Loïc.
C'était Parcours sur Radio Orient.